Le podcast Il était des voix revient avec une saison 3 sur les coulisses de la création. Je suis Christophe Payette et je m'intéresse depuis longtemps à la création. En interrogeant des artistes, clés de lecture de notre époque, on va explorer cette saison l'art des mots d'un point de vue féministe, l'art sonore à l'écoute du vivant, le renouveau de l'enquête à suspense ou encore le grand retour de la fête et de la culture club en France. Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois, en public, à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Nous sommes au tournant de l'an 2000. Un certain Christophe Ondelat lance une nouvelle émission télé. Il laisse alors ses empreintes sur le récit d'investigation criminelle, le true crime à la française. Le suspect laisse notamment sur la scène du crime cette musique, ce générique de fin qu'il trahit. Un morceau du groupe Narcoleptics, dont l'ADN permet de remonter jusqu'à la bande originale du film Le Messager, composé par Michel Legrand, à ce jour toujours présumé innocent. Depuis, les récits d'investigation et autres enquêtes criminelles, en unitaire ou sous forme de série, ont envahi les plateformes Netflix, Amazon, Disney, mais aussi les plateformes audio, puisque le genre est devenu un blockbuster du podcast. Je m'appelle Christophe, non pas Ondelat, mais Payette. Je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts avec la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle Il était des voix. Vous écoutez le troisième épisode de la troisième saison. Enquête en cours, c'est parti.
Je n'ose pas le dire.
Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
Est-ce que j'aurais l'air légitime?
Vous croyez qu'il m'écouterait?
Il était des voix. Un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
Oui, le podcast, c'est un format qui est de plus en plus privilégié pour revenir sur une affaire criminelle, revisiter une enquête, plonger au cœur d'une investigation. Il n'y a qu'à regarder le nombre de podcasts qu'on appelle contre-enquête, autrement dit qui viennent apporter de nouveaux éclairages sur une affaire passée. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Enquête criminelle, politico-financière, scandale sanitaire, évasion fiscale ou scandale d'État, voire enquête quasi anthropologique parfois ou historique. En fait, sur la forme comme sur le fond, cette notion mélange des œuvres très différentes. Et en podcast, l'enquête ne se limite pas au true crime. Et elle s'éloigne bien souvent du sensationnalisme du fait divers. Mais toutes ces histoires, elles ont un point commun. Un véritable art de l'enquête, mais aussi un art de la raconter. C'est cette narration qu'on va décortiquer comme une police scientifique du podcast. Et on va mener notre petite enquête avec quatre experts et expertes. On est avec Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux journalistes et autrices, entre autres, du podcast A Very Hot Summer in New York, une contre-enquête sur l'affaire DSK à paraître courant 2023. On va en parler. Nous sommes avec Pascal Pascariello. Bonjour.
Bonjour.
Pascal, tu es journaliste à Mediapart et là, je ne vais pas pouvoir citer l'intégralité de ton œuvre podcastique tant elle est foisonnante, mais tu es autrice entre autres du classique Les Braqueurs sur Arte Radio ou encore Un micro au tribunal pour Mediapart et puis aussi de nombreux pieds sur terre sur France Culture pour ne citer que. Et puis, traditionnellement dans cette émission, un de nos experts n'est pas issu du monde du podcast afin de croiser les regards. Et ce soir, nous sommes avec Antoine Chevrolier. Bonjour.
Bonjour.
Antoine, tu es réalisateur et tu es notamment créateur de la série Oussekin qui est sortie sur Disney+, qui est donc une série de fiction mais basée sur des faits réels, sur l'affaire Malik Oussekin et sur un véritable travail d'enquête dont on va parler. Pour commencer, Pascal, je le disais, ton travail d'enquête en podcast notamment, il commence à être important, colossal.
Parce que je suis vieille.
Non, c'est pas ce que je voulais sous-entendre. En tout cas, voilà, pour Arte Radio, pour France Culture, pour Mediapart, t'as enquêté aussi bien sur les trafics de stupéfiants, les exilés fiscaux, les criminels en général, qu'ils soient en cagoule ou en col blanc. Et s'il y a un fil rouge dans ton travail, c'est bien souvent de longues immersions dans des milieux qui sont difficiles d'accès ou en tout cas assez opaques.
Il était des voix.
J'ai quitté le domicile à l'âge de 15 ans et j'ai connu le foyer, mais personnellement, ça m'a pas plu. le fait d'être avec d'autres personnes que tu connais pas, t'as confiance en personne, tu te méfies. J'aurais préféré être dans une famille d'accueil ou quoi. Enfin, on a besoin d'une famille ou je sais pas comment dire. Et du foyer, moi qui n'aime pas le foyer, ben je faisais que des fugues. Alors je suis restée 6 mois dehors.
Tu dormais où ?
Dans Châtelet-Léal. C'était caché dans les issues de secours, je dormais sur un carton. Enfin, ça m'a aidé à trouver un abri, quoi. C'est mieux que d'être dehors. Ou... Voilà. On pense à tout, comment on va réussir à manger, comment je vais sortir de là. Cette peur, elle m'a donné le courage, quoi, de tout surmonter. J'essaye de trouver un moyen pour me faire de l'argent. La plupart des filles donnent leur corps. Moi, je vais pas du tout faire ça, quoi. J'ai commencé à faire des livraisons. Enfin, livraisons à transporter des stupéfiants. Ça a pas duré longtemps, vu qu'on m'a chopé très vite. Même pas 2 semaines. Voilà.
Et là, t'es très stressée, hein.
Stressée.
Qu'est-ce qui te stresse autant ?
Là-bas.
Les salles d'audience.
Ouais, les salles d'audience. J'ai jamais vu ça. Enfin, je voyais ça que dans les films. Et là, de voir comme quoi c'est moi, je vais passer à la barre, ça me choque un peu. Hein.
Je suis désolée.
C'est pas grave.
Tu souris tout le temps. Hein.
Faut garder le sourire.
J'ai 6h10. Le dimanche, ben... au lieu de me reposer tranquille, je vais aller au parloir à 1 heure de route pour aller voir mon frère. Et c'est que c'est dur, lui aussi, pour nous deux, hein, d'y aller, laisser mes enfants, tout ça. Même s'il voit pas ma détresse dans le parloir, il le sait que c'est dur pour moi.
Ça fait combien de temps qu'il y est ?
Là, ça fait 2 ans. Et il a pris 5 ans. Bon, encore 3 ans de parloir. Mais bon, j'espère qu'il y aura des remises de peine. Hein. Normalement, moi, c'est bon, mais bon. Après, il faut que ça tienne à carreau aussi dedans. Et là, je suis en train de préparer son sheet. Je veux du cellophane autour du sheet pour le couvrir. Au moins, quand tu le fais rentrer, il est couvert.
Parce qu'une fois que vous lui aurez passé au parloir, ça va être à lui de devoir le cacher.
Voilà, après, lui, tu te démerdes, lui.
Voilà, on vient d'entendre... deux extraits de deux séries de podcasts différentes. D'abord, c'était le premier épisode de Un micro au tribunal. Et puis ensuite, c'était Un pied sur terre. C'était le premier épisode de Sur le chemin du parloir. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux projets et de ta démarche, notamment d'immersion qu'on retrouve dans ces deux podcasts ?
Alors, c'est deux... Pour reprendre, alors chronologiquement, le premier, c'était celui qu'on a écouté en deuxième, justement. C'était un portrait de celui qu'on nommera Titi, qui allait voir donc son frère tombé pour des stupéfiants et auquel il amenait des stupéfiants. Et en fait, c'était une immersion, j'allais dire. Alors, contrairement à la deuxième, où c'était une immersion au sein d'un tribunal et qui a nécessité au moins 2 ans de travail, notamment pour des demandes d'autorisation auprès du ministère de la Justice. Donc c'est ça qui a été très très long pour faire l'immersion au sein du tribunal. Il fallait avoir ces autorisations-là officielles d'enregistrer des audiences, notamment au tribunal pour mineurs ou dans des comparutions immédiates qui sont normalement interdites à tout enregistrement ou à tout enregistrement sonore comme vidéo. Donc c'est ce temps-là de demande d'autorisation qui a été très long. Tandis que le premier, l'immersion que j'ai faite à Marseille sur les réseaux de drogue, c'était plus justement réussir à avoir finalement la confiance des personnes qui travaillaient dans les réseaux de drogue. Et là, c'était plus un travail de terrain, c'est-à-dire que j'ai passé plus de 3 mois à aller très régulièrement, quasiment quotidiennement, c'était en l'occurrence dans les quartiers nord de Marseille, dans certaines cités, notamment au-dessus de la Castellane, où j'y allais sans micro, où on discutait, où je restais avec ces jeunes qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Et l'idée, c'était de recréer un lien de confiance qu'ils n'avaient plus, parce qu'effectivement, ils étaient passés avant moi. Et ce n'est pas pour porter un jugement sur les journalistes, mais des journalistes qui faisaient plutôt des reportages embarqués avec la police pour dénoncer la criminalité et pour dénoncer les réseaux de drogue. Or, c'est bien plus nuancé, et c'est pour ça que j'avais envie de rester sur le long cours comme ça auprès d'eux pour montrer que c'est pas forcément ce qu'on veut, enfin les jeunes idiots qui ne veulent qu'avoir des baskets et avoir de l'argent de poste très facilement. L'histoire est bien plus compliquée. Évidemment, il y avait la plupart d'entre eux avaient cherché un autre moyen au début de s'en sortir, étaient tombés dans les réseaux, pas forcément par envie d'y tomber. Pour certains, c'était parfois contraint par des dettes. Donc c'est tout ce quotidien que je voulais raconter qui a demandé une immersion plus sur le terrain, contrairement à celle sur les tribunaux où c'était au moins un an de demande d'autorisation.
Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on comprend, c'est que ça demande énormément de temps en fait, pour aboutir à ce résultat, pour avoir recueillir ce type de témoignages. Est-ce que le format, le podcast, te permet particulièrement d'avoir cette capacité de temps long ou pas ?
En fait, effectivement, je pense que le podcast, le fait, parce que l'immersion que j'avais faite pour Les Pieds sur Terre, je l'ai faite en fait avant de travailler pour Les Pieds sur Terre. C'est tombé un moment où je quittais l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter. Et je suis partie avec, je me suis acheté un agra et je suis partie sur le terrain seule sans savoir ce qu'allait advenir de cette immersion. Donc c'était un peu à part et j'avais la possibilité, j'allais dire entre guillemets, un peu exceptionnel, parce que faut avoir les moyens pour pouvoir aussi prendre ce temps-là. Mais il se trouve que je suis marseillaise, donc j'avais pas de problème de logement sur place aussi. Enfin, c'est idiot, mais c'est quand même assez important la question financière quand on se lance dans une immersion ou dans un travail au long cours en enquête. Ne se poser, donc en tout cas, elle se posait moins, et c'est comme ça que j'ai pu le faire. Ensuite, pour un micro au tribunal, effectivement, il y a le média, enfin Mediapart n'avait aucun impératif de diffusion et avait les moyens aussi de me permettre d'avoir pendant un an voire deux ans, parce que ça a duré deux ans cette série de à la fois de demandes d'autorisation et ensuite de tournage, de montage, etc. Ça a été deux ans de travail et effectivement seul leur site comme Mediapart, pour des raisons à la fois financières et de non impératif de diffusion, m'a permis de le faire.
Alors, on va continuer un peu notre petit tour de découverte de vos œuvres et productions. Anne-Cécile et Marine, donc vous avez travaillé ensemble et vous avez enquêté sur un autre type de délinquant, sur un agresseur sexuel. Votre contre-enquête en podcast sur l'affaire DSK, A Very Hot Summer, est actuellement en production, mais on va en écouter le teaser.
Ça règle, hein ?
Ça règle, ouais.
La femme de chambre d'un hôtel new-yorkais qui l'accuse d'agression sexuelle et de tentative de viol a affirmé s'être débattue.
En fait, je sais pas si c'est moi qui tourne ces images parce qu'elles me paraissent très hautes.
Alors moi, attends.
Monsieur Strotkan, s'il vous plaît. Monsieur Strotkan.
Je me souviens très bien, je crois que j'étais genre juste derrière. Il avait flotté,
ouais, dingue. Je me souviens de cette nuit.
Hôtel Sofitel de la 44e rue à New York au 28e étage, la suite 2806.
Encadré par deux policiers, menotté, Dominique Strauss-Kahn est ressorti visiblement éprouvé.
Je m'appelle Marine Pradel, je suis journaliste. Il y a 10 ans, j'ai couvert l'affaire DSK, j'étais correspondante à New York. J'ai couvert l'affaire depuis le premier jour, le samedi 14 mai 2011, au Sofitel de New York.
T'es là ? Regarde.
Mais c'était là. What about tonight ? How was tonight ?
Juste derrière William Taylor, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn.
Quoi ?
T'as l'air fatiguée.
Je m'appelle Anne-Cécile Genre. J'étais journaliste en 2011 à New York aussi. Je venais d'arriver quand l'affaire DSK a commencé. Et du coup, tout m'excitait. Ça m'excitait parce que c'était la première fois que j'allais dans le Bronx. C'était la première fois que j'étais devant un tribunal américain. C'était la première fois que j'approchais un homme politique aussi important.
La police a également obtenu un nouveau mandat pour examiner les vêtements de DSK à la recherche de nouvelles traces.
Je pense que ça, c'est moi, ça doit être mes images.
Mais t'avais réussi à monter à la 2806.
Ouais.
Et ça, c'est du journalisme.
Et ça, c'est du journalisme. Tu vois plus le temps passer, t'as plus faim, t'es pas fatigué, t'as l'impression d'avoir pris de la drogue en fait. Et t'as cette excitation, cette adrénaline, et il faut être là, le premier, avoir l'info, la sortir.
J'avais vraiment mais aucun recul. J'étais plutôt genre, oh là là, quelle chance de pouvoir vivre ça. je réfléchissais même pas en termes de journalisme, quoi. Je réfléchissais en tu es spectatrice de ce truc incroyable. Et du coup, c'était ça mon moteur, en fait.
La recherche de la vérité sur cette affaire, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir fait à aucun moment parce qu'on avait ni le temps, ni les moyens, mais parce qu'en fait, ça comptait pas. Ça comptait pour personne. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû sortir à ce moment-là qui sont pas sorties. Et ça, ça me hante.
On va revoir les protagonistes de l'affaire et ceux à qui on n'a pas tendu le micro à l'époque. Et on va leur poser les questions qu'on aurait dû leur poser il y a 10 ans.
C'est pas un examen de conscience, c'est comme une enquête, comme une contre-enquête sur notre propre travail et sur les traces qu'a laissé cette affaire 10 ans après.
Alors vous avez, donc on l'a entendu, toutes les deux étaient journalistes à New York au moment des faits. Vous avez couvert l'affaire DSK pour les télés françaises. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé le fait de refaire une enquête aujourd'hui, plus de 10 ans après?
Oui. Bah, y a MeToo qui est passé par là, entre-temps, qui a beaucoup fait revenir des souvenirs de ce qu'on avait vécu à l'époque, à la fois sur le plan professionnel et donc ce qu'on avait fait comme couverture journalistique de cette affaire, et sur le plan personnel aussi, je pense, comme énormément de femmes. Il y a eu l'anniversaire qui est arrivé, on a vu arriver l'anniversaire des 10 ans de l'affaire DSK, et il y a eu un documentaire sur Netflix qu'on n'a pas du tout eu envie de regarder, ni l'une ni l'autre, et parce qu'on s'est dit que nous, on avait une autre histoire à raconter, et que surtout, on n'avait pas terminé les choses. Et on a vécu toutes les deux dans des pays différents, mais à chaque fois qu'on se recroisait, on parlait de ça, en fait. Et voilà, et on avait envie d'aller jusqu'au bout des choses et en même temps d'aborder les choses très différemment, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas refaire un documentaire télé ou Netflix ou quoi. On cherchait un moyen d'inclure nos histoires à nous. C'est un truc qu'on nous interdit absolument en tant que journaliste. En tout cas, on nous interdisait ça. Voilà, on nous disait, mais non, ce n'est pas ton histoire, en fait. Mais nous, ce qu'on a vécu, on a l'impression que les émotions qu'on ressentait à l'époque, etc., elles étaient valides parce qu'en fait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'on faisait.
Marine.
Effectivement, quand on se revoyait, Anne-Cécile vient de le dire, on se rendait compte qu'à chaque fois, on se remettait à parler de l'affaire et on essayait de comprendre pourquoi elle nous avait laissé ce sentiment un peu d'inachevé, ce goût un peu amer. Et on se disait, il y a quelque chose qui a été mal fait par nous, en tant que journalistes, par, je pense, l'ensemble des journalistes qui ont couvert l'affaire. Mais effectivement, le passage de 6 ans plus tard de l'affaire Weinstein a aussi déclenché quelque chose, parce qu'on a regardé, on se disait, mais il y a un certain nombre des protagonistes qui sont les mêmes. Si on regarde certains journalistes, d'ailleurs, qui ont couvert les deux affaires, qui étaient déjà en poste à New York, soit des correspondants ou des journalistes américains, la justice américaine, donc une partie de le bureau du district attorney à New York, Cyrus Vance, qui était le même, un certain nombre de personnes du bureau du DA, qui étaient les mêmes, qui ont interviewé les victimes d'Harvey Weinstein et qui avaient interviewé Nafissatou Diallo avant. L'avocat de Nafissatou Diallo a été ensuite l'avocat de, je crois, 6 des victimes d'Harvey Weinstein. Sauf que le résultat n'a pas du tout été le même, quoi. On se demandait qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui manquait. Pourtant, on a l'impression que tous les ingrédients étaient là, en fait, pour que ça déclenche. Alors, peut-être pas le tsunami qui a été MeToo, mais ne serait-ce qu'au moins une vague un peu plus grosse que ce qu'on a vu en 2011, quoi. Pourtant, il y a eu un démarrage. À Paris, il y avait eu des femmes qui avaient un peu manifesté, il y avait eu quelques, mais ça n'a pas pris. Et donc, c'est ça, nous, le moteur de cette enquête, c'est essayer de remonter à la racine de ça. Pour ça, nous, on a récupéré nos archives de la couverture de l'affaire. Donc, on a couvert l'affaire jusqu'à la fin de l'affaire au civil. Donc, c'était plus d'un an plus tard dans le Bronx. Et donc, on a récupéré un disque dur avec des centaines de gigas de couverture de l'affaire. Et on retourne dans ces rushs-là.
Vous avez ressorti tous vos rushs, vous avez regardé tous vos rushs.
On a épluché ça pour essayer de voir déjà sur ce qu'on avait filmé, qui, nous, du coup, était la matière brute qui servait aux journaux télé pour parler de l'affaire, quoi. Et on a essayé d'aller creuser aussi sur les à côté, c'est-à-dire ce qu'il y avait, en fait, juste au moment où on appuie sur REC, sur la caméra, c'est pas forcément pile le moment où il y a de la matière utile qui finit au JT, justement. Il y a plein de gras, en fait, il y a plein de choses autour. Et en fait, quand on les réécoute 10 ans plus tard, c'est assez intéressant parce qu'il y a des discussions personnelles à côté entre journalistes, des discussions informelles aussi entre nous et des attachés de presse, ou qui disent beaucoup, beaucoup de choses de l'époque. On a voulu aller creuser dans cette matière-là, que ce soit le on the record, le off the record, et puis et on mélange ça, du coup, avec des personnes qu'on avait interviewées à l'époque, qu'on retourne interviewer, des personnes, comme le disait Anne-Cécile, qu'on n'avait pas interviewées à l'époque et qu'on pense qu'on aurait dû leur tendre le micro, et notre ressenti personnel sur ce que cette affaire aussi elle a changé chez nous en tant qu'aussi en tant que femme jeune femme qui démarrions dans la profession en 2011 et sur nous aujourd'hui.
C'était combien de temps d'enquête, ce travail de contre-enquête?
On a commencé à travailler là-dessus en 2019. Alors on fait plein d'autres choses à côté, donc et comme disait Pascal juste avant aussi, le fait de se plonger dans des enquêtes au long cours, c'est pas forcément évident aussi quand on est indépendant ou freelance, etc. Ça demande beaucoup de temps, donc on a plein d'autres choses qui nous font vivre aussi à côté, mais on tenait à se donner le temps pour faire ça comme on le veut. Donc, on est de là-dessus depuis 2019.
On parle beaucoup du fait qu'on a mal fait notre travail. On a fait juste notre travail avec les outils qu'on avait à l'époque. Or, il se trouve qu'il y a eu MeToo et puis il y a eu donc tout ce qui est venu après, qui sont beaucoup d'outils en fait, d'analyse de ces relations hommes-femmes. Enfin, c'est plus que des relations hommes-femmes, là, en l'occurrence. C'est une agression. Mais voilà, enfin, en tout cas, je pense juste qu'on n'avait aussi pas les outils. Et donc, c'est important aussi dans les interviews qu'on a aujourd'hui avec des protagonistes de l'époque, parce que tout le monde a ces outils-là aujourd'hui. Je voulais dire qu'à froid, on peut aussi débloquer des choses. On est en train d'obtenir, et ça prend encore du temps, il y a encore des gens qu'on travaille, mais le fait d'arriver bien après les faits, ça fait qu'il y a des choses qui sortent quand même.
Il y a des gens qui sont prêts à nous parler maintenant, qui ne nous auraient jamais parlé à l'époque.
Et est-ce que justement, en plus de ce travail de réflexivité sur votre propre travail à l'époque, etc., est-ce qu'avec la contre-enquête, vous avez trouvé des éléments nouveaux, y compris sur le fond de l'affaire qui n'était pas sorti à l'époque ?
Alors oui, après je sais que cette affaire, en fait, elle a tellement, elle rend les gens un peu fous, en fait. Encore même 10 ans après, l'affaire DSK, c'est toujours une affaire qui, en télé, avec le vocabulaire souvent assez vulgaire de la télé, pardon, mais les gens disent que c'est une affaire qui est sexy, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. On a des éléments nouveaux, mais on veut pas trop s'étendre là-dessus parce qu'on veut pas que ce soit le. C'est pas notre propos. Notre propos, c'est pas de ressortir, de rentrer dans un récit de faits divers. Évidemment, en passant autant de temps sur l'affaire, 10 ans plus tard, on a des éléments nouveaux. Notre propos, c'est pas la résolution d'un fait divers juteux.
Je vous propose maintenant de nous tourner un peu vers la fiction pour mieux revenir vers l'enquête.
De très violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre seraient responsables du décès d'un jeune homme de 22 ans.
On sait qui a tué votre frère. Et il va falloir en prendre toute la mesure.
Pas que ça sorte. On épluche tout. Il nous faut une version solide.
Ils essaient de forcer le non-lieu en accusant Malik de ce qui lui est arrivé. C'est toujours la même méthode dans ce genre de cas.
Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de mes hommes.
Ça peut être n'importe qui.
On a plusieurs témoins.
Ils mentent. Pourquoi ils mentiraient ? Pourquoi ils mentiraient tous ?
Les choses ne doivent pas déborder dans notre camp.
C'est quoi notre camp ?
C'est celui de la justice.
Vous savez ce que je pense de cette justice-là.
C'est crucial de continuer à protéger l'institution.
Personne n'est au-dessus des lois.
On cherche pas à être aimé, nous. Ce qu'on veut, c'est être traité à égalité, c'est tout.
Voilà, Antoine, on vient d'entendre le teaser de Oussekine, série diffusée sur Disney+, dont tu es le créateur. Est-ce que donc c'est une série qui raconte l'affaire Malik Oussekine? Est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette affaire Malik Oussekine, du nom donc d'un étudiant tué en 86 par la police, et pourquoi tu as voulu en faire une série?
Malik Oussekine était donc un jeune homme de 22 ans, étudiant. Pour recontextualiser un tout petit peu, à l'époque, en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Vaquer. On est sous le gouvernement Mitterrand, donc première cohabitation, Chirac Premier ministre, et il y a un peloton qui s'appelle le peloton des voltigeurs, les PVM, deux hommes sur des motos, dont un armé de ce qu'on appelait à l'époque un bidule, donc un espèce de long bâton de bois, et qui était censé ratisser et faire en sorte de repousser au maximum les différents manifestants qui protestaient contre cette loi de Vaquer. Malik, lui, n'avait rien à voir avec ces protestations. Il était dans un club de jazz, donc on est dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, dans le quartier latin. un club de jazz qui s'appelait La Peyote. Ses frères l'avaient emmené donc dans ce club à plusieurs reprises. Et puis ce soir-là, au lieu d'aller manger chez sa maman, il a décidé d'aller voir un concert. Il sort donc de ce club de jazz et il s'avère qu'il se retrouve malgré lui dans des échauffourées. Et puis, après là, on rentre justement dans le sujet, c'est-à-dire que selon les versions, ça diffère, mais en tout cas, il s'avère qu'il a été poursuivi par des PVM. Lui a traversé donc la rue Monsieur le Prince, s'est retrouvé nez à nez face à un jeune homme qui s'appelait Paul Bézelon, qui lui a ouvert la porte pour essayer de le protéger, pour le faire rentrer dans le hall. Les policiers qui le poursuivaient, en fait, ont réussi à mettre la matraque dans l'entrebâillement de la porte, sont rentrés dans le hall et l'ont tabassé à mort. Suite à ça, évidemment, il y a eu un espèce de gros mouvement populaire lié à la situation politique de l'époque, puisque le même soir, il y a un jeune homme qui s'appelle Abden Ben Yahya qui est mort en fait à Pantin, et pour le coup, qui n'a pas eu du tout le même sort médiatique pour différentes raisons. Et donc, suite à ça, le nom de Malik Houssekine est devenu une sorte comme ça d'icône de la contestation populaire.
Et alors, pourquoi cette affaire, tu as voulu t'en saisir et la raconter sous la forme d'une série ?
Un manque, en fait. Je pense qu'il y a, je ne sais pas comment vous travaillez, mais en tout cas, je pense qu'il y a consciemment ou inconsciemment un sentiment de manque, un sentiment de donner quelque chose à voir, donner quelque chose à entendre. Cette parole-là, ces voix-là, ces visages-là n'ont pas été entendus, en tout cas, à leur juste valeur. Au moment des faits. Donc voilà, c'est d'abord, avant tout, ce qui me fait plonger dans la trajectoire de Malik et de sa famille, c'est un sentiment de manque. Parce que bon, finalement, c'est assez anecdotique la manière dont, je crois que c'est assez anecdotique la manière dont je me retrouve à m'intéresser à la trajectoire de Malik et à la trajectoire de sa famille. C'est lié à la culture populaire, un morceau de rap qui s'appelait L'État assassine d'Assassin. Lors de la sortie de La Haine, il y avait une compile de rap avec plusieurs groupes, Assassin, L'État assassine. Le refrain faisait L'État assassine. Un exemple, Malik Houssekine, j'ai 12 ans, le nom me reste en tête. Je monte à la capitale, comme on dit chez moi, et je me retrouve à vouloir creuser, chercher qui était ce Malik Houssekine. Dans un premier temps, je pense à un format plus donc cinéma. Et puis voilà, ayant travaillé sur différentes séries, je me rends compte que le format sériel me permet de raconter la densité que permettait finalement la trajectoire, pas tant de Malik, mais de sa famille, évidemment. Quoi.
On parle donc là d'une série de fiction, mais basé évidemment sur des faits réels que tu es en train de nous exposer. Et elle est le fruit, par ailleurs, d'un long travail d'enquête que tu as fait en amont avant d'écrire cette série. Combien de temps tu as travaillé dessus et comment tu as procédé, en fait ?
Alors, combien de temps j'ai travaillé dessus de manière effective, c'est un peu compliqué de le quantifier, mais entre le moment où je me dis il faut raconter cette histoire et le moment où effectivement je m'y mets de manière quotidienne, il y a entre 6-7 ans. Puis ensuite, il y a 2 ans de recherche et de travail, et en parallèle d'écriture, donc des scénarios, des scripts pour les 4 films. Moi, pour le coup, je suis beaucoup plus bleu que vous, donc je me suis attaqué de manière un peu naïvement, finalement, c'est-à-dire, dans un premier temps, de vouloir rencontrer absolument tous les protagonistes de l'affaire. Donc évidemment, on parle beaucoup de la famille, mais également de Paul Bézelon, qui n'avait pas parlé depuis 1990, et le procès, le seul témoin oculaire de la mort de Malik. Des policiers, CRS qui étaient en place, des avocats évidemment, Maître Kiejman qui était l'avocat de la famille Houssekine, jusqu'à Jacques Attali qui était le conseiller le plus proche du président Mitterrand à l'époque et qui lui évidemment aussi m'a donné des anecdotes très intéressantes sur la réception politique de l'Élysée à l'époque. Donc voilà, il a fallu déplier un tout petit peu tout ça, tous les protagonistes je crois dans un premier temps, essayer de les rencontrer. Donc bon, ça... Enfin, vous le savez mille fois mieux que moi, c'est fastidieux d'essayer de rentrer en contact avec eux, de nouer une sorte de rapport de confiance. Ce fameux moment où on leur dit « je vais enregistrer » et où on appuie sur REC et où on sent un tout petit peu des fois se figer au départ. Le protagoniste en question se relâche un tout petit peu et puis nous donne des éléments. Donc j'ai envie de dire, ça s'est fait assez classiquement. Puis après, dans un second temps de l'enquête, il a fallu aller chercher des choses plus concrètes. Donc essayer de rentrer en contact plutôt en contact physique avec tout ce qui est de l'ordre de l'instruction. Et donc là, on se retrouve face à quelque chose d'un peu compliqué, puisqu'on est face à la justice. Pascal, vous en parliez tout à l'heure. Bon, voilà, là, on est face à quelque chose de plus compliqué, quoi.
Avant Houssekine, on t'avait retrouvé comme réalisateur sur Le Bureau des légendes ou sur Baron Noir. C'est deux séries qui sont réputées, pour être très documenté, alors même s'il ne s'agit pas d'enquête comme sur le cas d'Ouseki à proprement parler, mais il y a la question de la documentation et du rapport entre la fiction et le réel. Qu'est-ce qu'apporte pour toi en tant que réalisateur, auteur, créateur de fiction, qu'est-ce qu'apporte la fiction dans le récit du réel ?
Moi, j'ai le sentiment que l'on parle d'Ouseki, du Bureau des légendes, de Baron Noir ou de finalement n'importe quelle fiction, elle parle d'une base réelle. C'est-à-dire que pour Ouseki, si le réel est le fleuve du récit, ses affluents, que sont la fiction, en fait, musclent fortement les événements qu'on nous a, moi et mes co-scénaristes, Faye Zagen, Cédric Ido, Julien Lilti et Lina Soilem, tous ces protagonistes nous ont livré. Donc il a fallu à un moment donné dire, OK, on a 4 films, il faut d'une manière ou d'une autre fictionner ça, puisqu'il y a une structure narrative qu'il va falloir poser. Bon, la structure narrative d'Ouseki, elle n'a rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est 3 strates de narration sur 3 époques différentes, à 3 instants différents. Bon, voilà, il faut structurer ça. Donc à partir du moment où on structure, on est de toute manière dans une fiction, je crois, dans une forme de fiction. Donc en fait, le réel, et puis après, pour Ouseki, c'est particulier, il y a une décision de justice. Donc on est tenu par cette décision de justice. Donc même si on apprend des choses à droite, à gauche, et qu'on peut souterrainement, à travers des personnages ou à travers des scènes, raconter un tout petit peu ce qui s'est passé sur le côté, on est tenu par cette vérité judiciaire. On a beau avoir notre vérité, il y a un moment donné, il y a une vérité. Et cette vérité-là, en tout cas, la judiciaire, en tant qu'auteur, on est obligé de s'y tenir. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ce genre de problème dans vos travaux, mais voilà, à partir du moment où il y a une condamnation, c'est difficile d'accuser quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pascal, toi qui as beaucoup travaillé sur la justice, si tu veux réagir sur le fait de devoir effectivement respecter factuellement la décision de justice.
Effectivement, du moment où il y a une condamnation ou, à contrario, quelqu'un qui a été mis en cause, poursuivi, finalement n'a aucune peine, c'est difficile ensuite de refaire son procès, entre guillemets. D'ailleurs, même nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour se positionner en tant que magistrat. Peut-être le seul moment où j'ai questionné des décisions de justice, j'ai eu cette liberté, entre guillemets, c'était seulement sous forme de questions, ou alors c'était dans la série Un micro au tribunal, où je donnais des nouvelles des personnes qui avaient été jugées et des conséquences des condamnations ou des peines prononcées à leur encontre, sans aucun commentaire. Notamment sur la jeune fille qu'on a écoutée au début, elle s'en était sortie, elle était jugée un an après les faits, depuis elle avait réussi à sortir de la rue, à refaire sa vie, et donc évidemment ses éducateurs, son avocat s'attendaient à ce qu'elle ait aucune peine. Il se trouve qu'elle a été quand même condamnée, ce qui l'a replongée dans la rue. C'était absolument étonnant comme décision, voire injuste, évidemment. Et le fait de raconter à la fin de l'épisode ce qui lui était arrivé, je sais, pour en avoir parlé après coup avec la magistrate, qu'elle a reconnu elle-même, lors d'une discussion, qu'elle avait le sentiment d'avoir fait une erreur judiciaire. C'était trop tard, c'était fait. Et voilà. Mais effectivement, une fois qu'il y a une décision, on est contraint par cette décision. On ne peut que à la marge la questionner, mais on est quand même hélas tenu, hélas entre guillemets, mais on ne peut pas ni la contester. En revanche, peut-être la questionner.
Tu disais, Antoine, quelque chose de très intéressant sur à partir du moment où il y a une structure narrative, on entre dans la fiction. Du coup, moi, j'ai envie de me tourner vers les journalistes et autrices de podcasts ici, parce que aux États-Unis, on parlait de true crime tout à l'heure. Le true crime, c'est né d'abord en littérature avec une forme d'écriture journalistique qu'on appelait la créative ou la narrative non-fiction. Donc cette tradition des récits journalistiques qui empruntent des codes à la fiction, par exemple dans la lignée de Truman Capote avec De sang-froid, pour rester dans le domaine du true crime vraiment et de la justice. Et donc c'est raconter des faits réels, le fruit d'une enquête, mais avec des méthodes narratives, pour le coup, qui relèvent de la fiction. C'est recréer des dialogues, c'est recréer du suspense. Est-ce que c'est des choses que vous faites, que vous avez déjà fait dans vos différents récits journalistiques ? Pascal,
Peut-être, enfin, je pense que vous y êtes plus prêté à cet exercice que moi, je pense. Mais
non, nous, on s'est beaucoup posé la question de la fiction parce que nous, comme on a beaucoup structuré et qu'on se pose, on se plonge dans une matière qui est quand même assez vaste. On a décidé d'avoir cet angle qui est nos souvenirs. Mais du coup, c'est nos souvenirs, donc c'est quand même. Enfin, je pense que c'est de la fiction pour plein de gens parce que c'est ce qui se passe dans nos têtes, mais ça reste réel et on est très honnête en plus. Non, enfin, moi, je suis fascinée par ce genre. En fait, j'ai un de mes héros que j'ai eu la chance d'interviewer, c'est Gaye Thalès, qui a un peu inventé cette forme, en tout cas pour les journalistes.
Ouais, voilà. Non-fiction,
ouais. Et lui, par exemple, il a passé 5 ans à fréquenter la famille Bonanno. C'est une grande famille de la mafia new-yorkaise qui a inspiré Les Sopranos. Et ça lui posait aucun problème, effectivement, d'inventer complètement des dialogues. Mais il les avait fréquentés pendant tellement longtemps qu'il savait leur tic de langage, etc. Bref, mais je... Bref, j'apporte rien au débat, je crois.
Non, si, c'est intéressant. Et c'est la question de l'honnêteté aussi, en fait, qui est intéressante.
Mais c'est un genre, le narrative non-fiction, qui démarre. C'est une question hyper intéressante de voir aussi comment il est adapté, que ce soit dans le podcast ou dans le... Ou en série, pour des séries doc fictionnées, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très anglo-saxon au départ, c'est-à-dire vraiment cette aisance avec laquelle ils assument de jouer avec le réel. Nous, on est très frileux là-dessus, quand même, encore en France, encore plus quand on, ce qui est notre cas, nous, on a un background, mais même, c'est pas même pas mon background, enfin, moi, je suis encore journaliste quotidien, c'est très compliqué de... Même si on a... envie, on pense que le format sur lequel on travaille en ce moment pour ce podcast, il pourrait se prêter à ce genre de format, un peu comme ce qu'Antoine a fait avec Malik Oussekine. Mais c'est difficile quand on est journaliste au départ, il faut se faire violence pour se lâcher avec la réalité.
Ouais, Antoine.
Non, et je voulais juste ajouter, il y a un auteur également qui, je crois, a ouvert des portes plus grandes que ce qu'on imagine, qui est Éric Vuillard, qui, sur ses 3-4 dernières œuvres, dont un Goncourt, s'est permis, s'est autorisé justement sur des faits très précis comme la Révolution ou son bouquin Congo, s'est autorisé ces espèces d'égarements fictionnels comme ça, où la question se pose de est-ce que ça s'est réellement passé comme ça. Voilà, et en fait, je pense qu'Éric Vuillard, depuis 10 ans, son travail a ouvert plus ou moins consciemment les portes justement de ce type de récit, de comment on intègre la fiction dans le réel, quoi.
Alors, un point commun aussi à toutes vos enquêtes, c'est qu'on découvre à travers ces histoires à chaque fois l'envers du décor, et surtout on entend ceux que l'on n'entend jamais.
Il était des voix.
What is the atmosphere the inside the hotel?
Well, this morning it's full of security. I'm a tour guide and they're watching me carefully and trying to figure out who I am. Otherwise, it's generally a
la rue était remplie de policiers.
On filme le Sofitel. Le Sofitel, c'est beau, ça brille. On met des taxis jaunes devant parce que ça fait New York.
Et on est rentré dans l'hôtel, il n'y avait rien de particulier.
Mais la réalité de l'histoire, je pense qu'elle se passe du côté de la sortie de service. Je ne sais pas s'il y a une sortie de service au Sofitel, mais... Comme je disais, on voit pas passer les employés par cette porte, on voit passer que des gens hyper bien fringués. Et je trouve que c'est assez représentatif de la façon dont on a couvert l'affaire depuis le début. Moi, pas une seule seconde, il m'est venu à l'esprit de peut-être aller chercher du côté de l'entrée de service.
Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais. Et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait du repérage, on fait un casting, on fait de la préparation et on passe à l'action. Donc c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement. C'est-à-dire qu'on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait « bon voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas plastiquer. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe des convoyeurs, toi tu surveilles la route de l'autre côté. » Chaque détail compte.
On vient d'entendre deux extraits très différents. Very Hot Summer in New York, d'abord un extrait avec l'évocation du personnel d'hôtel qui finalement n'a jamais été entendu dans les médias au moment de l'affaire en 2011, au moment de l'affaire DSK. Et puis deuxième extrait, c'était un extrait des braqueurs de Pascal dans un tout autre registre, mais avec là encore, en fait, d'une certaine manière, un personnage qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à ta série pour Arte Radio. Avant de commenter ces extraits, tu voulais ajouter un petit truc sur l'histoire de la condamnation, je crois.
Oui, non, des décisions de justice, une parenthèse, parce qu'après, en revanche, je ne m'étais pas prêtée en podcast, mais sur les décisions de justice, effectivement, on est contraint par cette décision. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des podcasts qui ont refait l'enquête, les enquêtes bâclées. Et comme je pense à ça, parce que moi, à l'écrit, en revanche, sur les violences policières, c'est quotidiennement que les enquêtes sont bâclées, que les éléments sont enterrés par l'IGPN et que le procureur classe sans suite. Et que là, en revanche, effectivement, et c'est, je pense, notre rôle de refaire cette enquête-là et de dire... comment ça se fait que tel élément soit enterré, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de condamnation prononcée pour les policiers auteurs des violences, etc. Voilà, c'était une parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même notre boulot
ouais,
de le faire.
Bien sûr. Pour revenir à cet extrait qu'on vient d'entendre, donc on a entendu ce braqueur qui raconte sa vie à ton micro. C'est une obsession pour toi, cette idée de tendre le micro aux gens que l'on n'entend jamais ?
C'est un peu obsessionnel, ouais. J'avoue, ça épuise mon entourage même, mais c'est essayer de trouver vraiment la personne, celle qui n'a aucun intérêt, aucune envie de me parler, donc je plaisante, mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu ce qui m'intéresse en radio, en fait, c'est de me dire, voilà, toutes ces personnes dans l'ombre, pour X ou Y raison, que ce soit des braqueurs ou des exilés fiscaux, qui n'ont évidemment aucun intérêt à dire qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, ou qui vont parler d'optimisation fiscale, toutes ces personnes-là de l'ombre, j'ai envie d'aller les chercher, j'ai envie de les écouter, j'ai envie, voilà, de donner un visage et d'entendre voilà, leur voix. Donc effectivement, même que ce soit pour la prochaine série que je fais pour Mediapart, où on interroge la notion de légalité, qui est toute relative, puisque parfois on peut être dans l'illégalité, mais avoir fait quelque chose pour l'intérêt général. Donc je questionne ça à travers des portraits de personnes qui, là encore, n'ont pas intérêt à expliquer qu'elles ont commis une infraction ou un délit.
Le premier extrait qu'on a entendu, donc c'était un extrait de Very Hot Summer in New York, Marine et Cécile. Vous, pour le coup, les personnages de l'ombre auxquels vous vous êtes intéressés de près, ce sont les femmes de chambre des hôtels de luxe.
Oui, alors il y a une raison quand même pour laquelle, à l'époque, le personnel du Sofitel ne parlait pas, ils n'avaient pas le droit, évidemment, mais ça n'empêche qu'on aurait pu mieux chercher, je pense. Et on a notamment, c'est l'objet du premier épisode, on a trouvé, en allant à la rencontre d'une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes en situation de précarité. Elle nous a raconté qu'en fait, elle avait un an avant l'affaire DSK, elle a défendu une femme de chambre d'un hôtel de luxe parisien, à qui il est arrivé exactement la même chose, sauf que c'était quelqu'un de l'entourage du prince du Qatar. Et sauf que ça ne s'est pas passé de la même manière, évidemment. La police n'a pas été appelée, l'agresseur a été prévenu, il a pu fuir.
C'est l'hôtel qu'il a laissé fuir et qui n'a pas appelé la police.
Et qui n'a pas appelé la police, elle s'est retrouvée à devoir appeler la police toute seule. Enfin bref, et en fait, je ne vous raconte pas la suite, mais ça ne se termine pas très bien. Et elle nous a raconté les chiffres aussi, évidemment, de la réalité en fait, de ces agressions sexuelles sur les femmes de chambre. Et ça, typiquement, bah, nous, on ne le savait pas. Enfin, je dirais qu'on l'avait bien senti venir avec... ces dernières années, parce que le discours a un peu changé et les centres d'intérêt aussi. En tout cas, au moment de notre ouverture de l'affaire DSK, on n'a pas une seule fois... Enfin, en fait, si, justement, on pensait qu'on n'avait pas ce témoignage. Et en fait, en allant chercher dans nos rushs, on s'est rendu compte qu'on l'avait. Voilà. Mais qu'on l'avait même pas... Ça n'a pas fait un seul JT à l'époque. Personne n'en a parlé. Mais en fait, on a rencontré des femmes qui nous racontaient ça. Et on n'en avait même pas le souvenir. C'est-à-dire que c'était pas ce qu'on cherchait. Et donc... Voilà, ça montre aussi comment on fonctionne en tant que journaliste, voilà, quand on nous donne une mission et qu'on ne va pas forcément chercher à côté, etc.
Et juste pour ajouter de façon factuelle, mais c'est vrai que de réenquêter là-dessus 10 ans après, on s'est rendu compte que c'était tellement courant, ce qui à l'époque, à cause de la célébrité du personnage principal, qui est cette célébrité qui écrasait un peu tout. On ne s'est pas focalisé sur les faits, mais en fait, c'est d'une banalité telle en fait qu'il y a des avocates comme celle qui nous parle dans le premier épisode, dont c'est le travail quasiment à temps plein de défendre des femmes de chambre qui sont violées dans des Four Seasons, dans des parcs Hyatt, par des types importants.
Et toi, Antoine, avec Ousekine, tu as eu un peu aussi la même démarche en fait, de tendre le micro à ceux qui avaient été oubliés par l'histoire. Et en l'occurrence, c'est plutôt la famille en fait, de Malik Ousekine.
Tout à fait. Je vais rebondir. C'est au long cours cette discussion, mais du coup, je rebondis sur. Et je suis évidemment super d'accord avec vous sur le fait que c'est notre rôle et que le rôle, enfin pour moi, la charge que nous on envoie avec Ousekine, c'est évidemment de rétablir la vérité et de faire en sorte justement de souligner à quel point ces aberrations judiciaires, particulièrement à l'endroit des violences policières. Et c'était le but de cette série. Et donc, voilà.
Et c'était justement parce que la série, enfin voilà, moi j'ai. Heureusement qu'elle vient, enfin voilà, qu'elle
Merci.
Était là. Enfin, franchement, bravo.
Merci
et c'était dans ce sens-là.
Du coup, toi aussi, tu as en fait eu la même démarche d'aller tendre le micro d'abord dans ton travail de recherche, puis de leur donner la parole à travers ta fiction à des oubliés de l'histoire.
Ouais, bon, dans un premier temps, pour moi, c'est à l'endroit moral, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va chercher des anecdotes, creuser un sillon qui leur appartient avant tout. Et il m'était impossible. Je ne demandais pas une autorisation parce que de toute manière, j'aurais fait Ousekine. Mais finalement, ça s'est transformé comme une sorte de bénédiction. C'est pas non plus ce que j'allais chercher, mais ça s'est transformé un peu comme ça, si on doit parler du rapport avec la famille. Donc Mohamed Ousekine, Ben Amar Ousekine et Sarah Ousekine, les trois frères et sœurs encore vivants de la famille Ousekine. Donc voilà, c'était dans un premier temps, c'était de les prévenir de mon intention de raconter l'histoire de Malik et donc de leur famille. Mais ça a été très compliqué de rentrer en contact avec eux parce qu'ils avaient un peu disparu et c'est tout à fait normal. Donc ça a été une espèce d'enquête dans l'enquête de savoir où était Mohamed. Les dernières nouvelles, il devait être en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, c'était un peu le supplice de Tantal en fait. Le truc s'approchait, c'était pas ça. Et puis à un moment donné, il était à Meudon quoi. Voilà, et puis une fois qu'on a Mohamed, on a Ben Amar, et puis donc voilà, c'était important effectivement d'avoir. Mais on parle beaucoup de la famille, mais pour moi encore une fois, c'était important aussi d'avoir Paul Bézelon, les policiers. Alors il s'avère que les policiers qui ont assassiné Malik sont morts, mais voilà, il y a encore des CRS vivants qui ont été témoins en fait de ce qui s'est passé.
Donc toi, t'as été les interroger parce qu'il y a quelque chose qui est important quand on fait une enquête, je crois. Peut-être Pascal, tu pourras nous en parler. C'est le contradictoire, ce travail-là, par exemple, de contradictoire, d'aller, alors, si les policiers, en l'occurrence, tu l'as dit, sont morts, mais voilà, d'aller chercher, malgré tout, ceux qui défendent la vision officielle.
C'est indispensable, je crois. Enfin, en tout cas, d'une manière, je crois que le geste de traiter de manière, je crois que le fait de raconter. Parce que bon, la série parle de ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 décembre, mais également de ce qu'a subi la famille derrière et de ce qu'a subi la famille avant, c'est-à-dire le 17 octobre 61. La trajectoire chaotique de ces familles. Donc, à partir du moment où on s'attaque, à ces trajectoires, on est. En tout cas, je me suis senti obligé, évidemment, d'aller me tourner vers la famille. Mais les policiers, c'est venu dans un second temps, en fait, évidemment. Parce que l'endroit, encore une fois, il était moral. En face, en fait, c'était juste que le travail soit le plus paritaire possible. C'est-à-dire que c'est militant, je crois aujourd'hui, de faire une série de 4 épisodes sur Malik Ousekine. Mais si c'est qu'une série militante et qu'on ne convainc que les convaincus, bon, en fait, il y a peu d'intérêt, vous voyez. Il a fallu s'imposer, écouter les versions fallacieuses ou autres, parce que nous, on avait accès à un dossier d'instruction. Donc, en fait, quand quelqu'un nous disait « j'ai vu ça », même si c'est 35 ans après, bon, bah, nous, on avait son rapport deux jours après la mort de Malik, où il disait tout le contraire. Bon, bref. Voilà, donc on s'est évertué avec Maroum de rencontrer, d'écouter. Et puis ensuite, voilà. Ce qui est dans ces 4 films, c'est pas notre vérité, c'est la vérité. Ce qu'on a dit sur Malik, sur le fait qu'il avait raté des dialyses ou ce genre de choses, c'est faux. C'est faux. Des députés l'ont dit à la c'est faux, en fait, à la télévision, c'est faux. Donc en fait, on rétablit juste les faits. Voilà.
Sur cette idée de contradictoire, Pascal, quand on s'est parlé un petit peu au téléphone, tu me disais qu'on te demandait souvent si ça ne te faisait pas peur d'aller interroger finalement les gens qui sont mis en cause. Alors, ça fait peur ou pas?
Au début, j'avoue, oui. Quand j'étais très jeune, ça m'a fait peur au début. Et après, c'est devenu au contraire... Enfin, alors, j'allais pas dire un plaisir, sinon on va se dire genre, y a un peu sadomaso quand même. Mais disons que c'est... oui, enfin pas l'aboutissement, mais quand même une fois qu'on a fait l'enquête, et de toute façon on peut pas se passer, ce serait pas déontologique du contradictoire et de donner la parole évidemment aux principaux mis en cause dans notre enquête. Et à l'époque, je me rappelle, enfin les premiers moments, c'était pour France Inter. Et pour Mermet, à ce moment-là, il y avait la possibilité de faire un contradictoire aussi par mail, quoi, hein, d'interpeller la personne et ensuite de lire sa réponse à l'antenne, au micro. Il se trouve que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, évidemment, d'enregistrer ces moments et de prendre rendez-vous. Et c'est vrai qu'après, j'ai essuyé un bon nombre, soit de refus, soit d'entretiens qui s'interrompent. Mais je trouve que c'est assez intéressant, passionnant, parce que ça vient à la fin de l'enquête, qu'on a, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vraiment l'ensemble du dossier, ou en tout cas, d'avoir tous les éléments, recueilli l'ensemble des éléments. Et la parole du mis en cause est déterminante et parfois, en fonction de la personnalité que j'ai en face, c'est-à-dire évidemment si c'est un élu, il va manier la langue de bois. Donc ça nécessite en plus d'essayer de casser cette langue de bois. Si c'est un professeur, je me rappelle, de médecine qui me prend de haut parce qu'il estime qu'effectivement, j'ai pas fait suffisamment d'années de médecine pour connaître le sujet comme lui, mais il se trouve que j'ai par ailleurs suffisamment préparé, eu d'autres professeurs plus indépendants que lui, qui étaient à l'époque achetés par des laboratoires pharmaceutiques et qui donnaient des médicaments contre Alzheimer, qui étaient absolument non seulement inutiles, mais en plus qui avaient des effets assez dangereux pour la santé des patients, et qui au final j'ai réussi à lui faire dire qu'effectivement c'était absolument inutile et dangereux. Mais c'est après un long combat, entre guillemets. Et ce moment-là, effectivement, oui, c'est comme, je trouve, un jeu d'échecs. Ça me passionne. Après avoir peur. Maintenant,
est-ce que t'as déjà ton sentiment sur une affaire a déjà été infléchi par la conversation que tu pouvais avoir au moment du contradictoire avec la personne mise en cause?
Ah bah, le doute doit toujours un peu exister quand même, parce que si j'arrive bille en tête en me disant ça serait terrible, évidemment que le doute existe, évidemment que le contradictoire, il faut en tenir compte. Enfin, j'arrive pas en voyant une personne en me disant moi j'ai la vérité, vous allez mentir. Non, c'est pas du tout ça. Non, qu'est-ce que vous avez à me dire sur tel fait? Et le contradictoire, il faut garder les réponses de la personne aussi. Il faut la respecter tout autant qu'on respecte les autres. Hein. Sinon, je suis d'accord sur le côté. Si on est à ce moment-là, on tombe dans du militantisme sans avoir le regard des autres. On n'est pas, entre guillemets, on ne peut pas transmettre de messages. On n'est pas respectueux de la parole des uns et des autres. On trompe les personnes aussi qu'on va informer. J'ai des doutes. Oui, la parole de l'autre, évidemment, compte tout autant. Et je recherche, mais ça a dû m'arriver, je peux avoir nuancé aussi drôlement ma perception des choses avec à l'issue du contradictoire.
Alors, j'aimerais qu'on termine cette conversation en s'interrogeant un peu sur les limites que l'on peut ou qu'on doit se fixer quand on fait une enquête. Mais d'abord, on écoute ça.
François, bonjour. Donc, vous êtes madame
Courtembé.
Ça s'écrit
En fait, c'est Bettencourt à l'envers.
D'accord.
Bonjour. Voilà, je me permettais de vous appeler pour avoir quelques informations. C'est pour ma grand-mère, alors qu'il y a par ailleurs un avocat, un fiscaliste. Sachant que tout ça reste dans l'anonymat. Hein.
C'est votre métier, madame.
Je vous explique. Elle a vendu des parts dans une entreprise qu'elle avait. Parce qu'elle risque d'avoir à payer beaucoup plus d'impôts.
J'ai compris.
Voilà. Et donc, une des solutions, a priori, c'était de créer une société offshore. Et vous me coupez, ouais. si je me trompe. Monter une société offshore, ça lui permet du coup de payer pas d'impôts sur l'argent qu'elle vient de toucher.
La vente est faite ?
C'est en prévision de cette vente où elle se dit D'accord. qu'elle va évidemment être assujettie à l'impôt sur la grande fortune. Elle l'est déjà. Hein. Mais disons qu'elle aimerait... voilà.
Et c'est par là, elle s'évalue à quelle hauteur ?
Ça doit être autour de 800 000 euros, je pense.
D'accord, ok. Alors, nous, on est là pour vous créer une structure qui vous permette de percevoir ces fonds en toute tranquillité dans des juridictions qui vous offriront une fiscalité plus avantageuse, c'est évident.
Oui.
Vous n'avez pas à vous déplacer à l'étranger. Ça, c'est nous qui faisons tout. Donc, nous, on va vous ouvrir une société. On va vous ouvrir également un compte bancaire qui vous servira à percevoir vos fonds.
Et elle, parce qu'elle, elle me disait qu'elle avait peur, évidemment, de d'être perçue comme quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux. Enfin...
Les destinations qu'on propose n'ont pas de connotation exotique ou alors il faut faire certains montages financiers. Donc nous, on est là pour ça, pour vous conseiller la meilleure juridiction. Mais on travaille sur des destinations, sur par exemple Gibraltar ou Hong Kong, où vous êtes exonéré totalement d'impôts. Si vous voulez, Hong Kong, c'est de l'offshore sans lettre, si vous voulez, puisque si vous êtes étrangère, vous payez 0% d'imposition. Maintenant, si je vous envoie une facture provenant d'Angleterre ou de Hong Kong, c'est quelque chose qui passe sans aucun souci. Donc voilà, c'est encore une fois une question d'image. Donc voilà, ces destinations-là ne sont pas blacklistées.
Voilà, alors Pascal, on vient d'entendre un extrait de Mamie Offshore que tu as fait pour Arte Radio. Tu t'es fait passer pour quelqu'un que tu n'étais pas.
C'est ça, il a fallu que je potasse parce que je n'avais pas la notion des chiffres ni rien. Mais...
Est-ce que pour obtenir des informations, on peut mentir ?
C'est ça la grande question. Je l'ai fait quand j'étais journaliste indépendante. En l'occurrence, Mamie Offshore, j'étais journaliste indépendante. Donc, je me suis permise de le faire. Cette société, France Offshore, a depuis fermé ses portes. Ils avaient des bureaux à Paris qui ont été, ils ont été interdits, évidemment, depuis en France. Mais si je me suis permise de le faire, sur le ton, de l'humour, etc., c'est que voilà, il n'y avait pas de rédaction derrière moi. Et je travaillais en mon nom. Là, oui, je me suis permise de faire ce petit canular. Je ne le ferai plus maintenant, parce que maintenant, je travaille pour Mediapart, et enfin, j'ai intégré leur équipe. Donc, j'ai une rédaction derrière, et on a évidemment une déontologie qui fait que non, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Tu t'es déjà fait passer pour un policier aussi, je crois.
Oui, une policière stagiaire. Ouais. c'était pour. Alors ça, c'était pour France Inter, pour l'émission Là-bas si j'y suis, où en fait, c'était pour dénoncer les conditions de détention des étrangers dans les centres de rétention avant d'être expulsés, donc dans les CRA. Et à ce moment-là, il y avait même, peut-être qu'il y en a encore, mais à l'époque, en tout cas, il y avait quelques policiers qui m'avaient alerté sur ces conditions de rétention. Et j'avais fait une demande tout à fait officielle en tant que journaliste pour aller voir un centre de rétention. Vous vous doutez bien que quand on fait une demande officielle, déjà, bon, il faut qu'elle soit reçue. En l'occurrence, là, en plus, on me l'avait refusée. Mais si elle est acceptée, c'est on vous montre une jolie salle, tout va bien, on vous montre quelque chose qui est tout à fait préparé et absolument pas la réalité. Là, le seul moyen pour voir vraiment comment ces personnes étaient retenues et appelées au micro, on les appelait noirs, africains, arabes, chinois... C'était excessivement violent et raciste. La seule façon, c'était à ce moment-là de prendre un micro caché avec l'aide de policiers qui m'ont fait rentrer comme une jeune policière stagiaire qui se demandait si elle voulait être affectée dans un centre de rétention.
Bravo. Non, bravo vraiment, en plus. Pour conclure, je vais poser la même question à tous et toutes nos invités avant qu'on pose, qu'on laisse le micro au public. Donc je vous préviens tout de suite, vous avez 5 minutes pour trouver une question. La première question est toujours compliquée, donc vous pouvez anticiper, voilà, déstresser. En attendant, Anne-Cécile, Marine, est-ce que vous avez déjà flirté avec la ligne rouge, avec l'illégalité pour une enquête ? Ou avec la morale, je ne sais pas.
Alors moi, c'est quand même beaucoup moins mon métier que Marine. Moi, c'est seulement quand j'ai travaillé avec d'autres journalistes qui me demandaient de filmer alors que les gens nous disaient qu'on n'avait pas le droit, c'est ce genre de choses. Et le souvenir que j'en ai le plus embarrassant, il se trouve que le mec qu'on filmait se faisait passer pour le copain de Nafissa Doudialo, justement, sur l'affaire DSK, ou son frère. Enfin, en tout cas, c'était quelques heures plus tard, on a appris que c'était pas vrai. Donc, en plus, ça servait à rien. Voilà. Mais c'est toujours un peu embarrassant quand on travaille avec d'autres. On n'a pas forcément la même déontologie. Après, parfois, ça sert hein, de quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cacher des choses, mais voilà, moi, j'ai beaucoup moins fait de terrain que vous. J'ai été journaliste culturelle après. Donc, j'ai pris beaucoup moins de risques.
Oui, parfois, il faut pour avoir accès à certains endroits ou certaines. Moi, j'ai passé un certain nombre de temps au Moyen-Orient et assez souvent, pour pouvoir avoir accès aux zones de reportage. Il faut présenter les choses aux autorités. Alors, ça va être le chef militaire de tel endroit, le cher de tel coin. Alors, c'est plus une façon de présenter les choses, quoi. Il faut présenter les choses dans un sens qui va leur faire plaisir. Et puis, comme ça, on a accès aux zones. Mais sinon, si ça m'est arrivé une fois sur une enquête, c'était sur une enquête sur les drogues de synthèse. Et pour le coup, j'étais... je devais moi me faire passer pour une consommatrice. Il y avait un peu de préparation physique et après, du coup, je devais aller dans un endroit où il y avait beaucoup de gens très très addicts parce que c'est des drogues de synthèse fabriquées en Chine qui ont un effet physique. Enfin, sur les gens qui en prennent, il y en a un certain nombre qui n'ont pas l'occasion d'en prendre beaucoup longtemps parce que ils vivent pas forcément très longtemps, mais ça se voit assez physiquement, quoi. Donc il y a une petite préparation physique. Mais après, du coup, fallait faire la queue pour pouvoir les acheter avec plein de types un peu zombies. Et bah, fallait quand même acheter des substances illégales dans un endroit un peu dangereux, quoi. Et je me souviens, alors ça c'est vraiment pour la petite anecdote, mais dans la foulée de cette enquête que je faisais pour Envoyé spécial sur les drogues de synthèse, je devais aller couvrir l'inauguration d'Obama pour son deuxième mandat à Washington. Et en fait, du coup, j'avais acheté plein de types différents de drogues de synthèse qu'on devait envoyer en labo après pour les faire analyser, pour pouvoir...
Tu n'as pas goûté avant d'aller
Et j'ai oublié qu'elles étaient dans mon sac de caméra. En fait. Et je suis arrivée pour le... Donc les Américains, ils sont assez stricts sur les contrôles, etc. Donc on devait, pour l'inauguration, je crois que je devais être à 4h du matin, en plein froid, en plein hiver, à côté du Capitole, à faire scanner toutes les caméras, tous les sacs, tous les trucs, etc. Et j'avais oublié que j'avais une petite cargaison de drogue de synthèse dans mon sac de caméra. Voilà. Et ils rigolent pas trop avec ça, les Américains. Donc, voilà. C'était mon expérience de l'illégalité aux États-Unis.
Et toi, Antoine, pour conclure, voilà, dans le cadre de ton travail d'enquête sur Ousekine, est-ce que tu as été flirté un peu avec ce qui était autorisé ou pas?
Moi, c'était tout nouveau pour moi, donc en fait, j'ai qu'une seule expérience. Mais de la morale, je crois pas. Alors, je suis pas le mieux placé pour. Mais je crois pas avoir flirté. Mais de la légalité, oui, forcément, un tout petit peu. Pour avoir accès aux informations dont on a besoin, justement, pour être le plus proche de la vérité. Mmh. Voilà.
Pour avoir des papiers que tu n'aurais pas dû avoir entre tes mains, grosso modo.
Ouais, des trucs. Ouais.
On en restera là et on va se tourner du coup vers le public pour voir s'ils ont des questions pour vous.
Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
Il était des voix.
Bonsoir. Déjà, merci à tous parce que c'était très intéressant. Anne-Cécile ou Marine, vous avez parlé au tout début d'un documentaire Netflix sur l'affaire DSK. Ça m'a fait penser aussi à un autre documentaire Netflix sur l'affaire Grégory, avec des témoignages qui étaient assez odieux. Sur le domaine fictionnel, ça m'a fait penser à une autre série, bon, il se trouve que c'est aussi Netflix, sur Dahmer. Et donc, j'avais un germe de questions sur est-ce qu'il y a des histoires à pas raconter, est-ce que c'est dans la façon de les raconter, quelles sont les limites
C'est la façon de le faire après, mais je vois très bien ce dont tu veux parler sur Grégory. Effectivement, il y a des moments d'interrogation... très clair, il y a une responsabilité énorme et effectivement c'est une vraie question. Moi j'ai une formation de journaliste où on m'a vraiment rentré dans le crâne la déontologie, ce qui fait que je pense que des journalistes qui font ce travail-là, adapté peut-être à des déclinaisons justement séries, peuvent être un peu coincés peut-être par rapport à des gens qui viennent de la fiction, qui ont beaucoup plus de liberté sur ces trucs-là. Et c'est une vraie question. Est-ce que à partir du moment où on se base sur des faits réels pour raconter une histoire et qu'il y a des histoires de vrais gens dedans, est-ce qu'on peut considérer que la déontologie journalistique, elle devrait s'appliquer à quelque chose qui n'est pas en soi du journalisme ? Je sais pas.
Moi, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où, encore une fois, on a ce sentiment de manque, que ce soit à l'endroit des vérités, des éléments qu'on peut avoir sur telle ou telle enquête, que ce soit autour d'un crime ou autre, crime étatique ou autre, ben voilà, si on a ce sentiment de manque, il faut s'y atteler, je crois. Et puis, y aller avec toute l'honnêteté du monde, avec justement ce rapport à la morale des gens dont on va parler, enfin, d'essayer d'être le plus respectueux possible. Je pense que, enfin, moi j'ai le sentiment qu'on peut tout raconter, même ce qu'on nous interdit de raconter, à partir du moment où on a le sentiment qu'il y a une indispensabilité à raconter cette histoire.
En tout cas, effectivement, quand ça fait écho, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux raconter à travers cette histoire, ou pourquoi effectivement, pourquoi je donne la parole à telle personne, quel écho ça a, c'est-à-dire aussi quel est l'intérêt pour tous d'entendre cette histoire, à partir de du moment où. Oui, c'est d'intérêt public, ça sert l'intérêt général. À ce moment-là, il y a aucune raison de se l'interdire. Et après, évidemment, c'est dans la manière de le faire. Et comme vous le dites, quand on est pétri du respect de l'autre, de règles de déontologie, du respect de la parole qui nous est donnée, je pense qu'on ne tombe pas dans le voyeurisme, où on fait en sorte de ne pas tomber dedans. Peut-être un des interviews les plus difficiles que j'ai eu à faire, où je vraiment, pendant l'interview, je me suis posé la question, mais parce que c'était violent, c'était des parents qui racontaient le décès de leur fils à l'usine, à ArcelorMittal. Leur fils était intérimaire et avait une vingtaine d'années. C'était insoutenable à entendre, parce qu'en plus le deuil n'était pas encore fait, que de toute façon un deuil comme celui-ci n'est jamais fait. Et après, c'est un travail de montage pour faire en sorte de préserver leurs paroles, de faire en sorte de pas les surexposer, et donc aussi d'enlever parfois des moments de pleurs trop importants. Enfin voilà, il y a tout un travail derrière pour préserver les personnes, mais en même temps. Pourquoi ne pas les... Enfin, c'est indispensable d'entendre les risques encourus et surtout la mise en danger et la responsabilité d'ArcelorMittal dans les décès de ces jeunes. Voilà. Mais effectivement, c'est quand il y a un manque, je pense que tout peut être raconté, du moment où aussi on se dit qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est pour nous tous qu'on veut le raconter, si c'est pas pour des sombres histoires, de faire du buzz ou de tomber dans le voyeurisme le plus dégueulasse de ce que vous citez sur Netflix, quoi. Enfin, il me semble. Mais...
De façon générale, je pense qu'il y a aussi le changement de format peut apporter quelque chose, et notamment sur ce que tu racontes, il me semble qu'en podcast, on est prêt à... Moi, je suis prête à... Enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, à réécouter des histoires racontées autrement. Je trouve qu'il y a énormément de podcasts qui parlent de trucs mais vraiment dramatiques, et moi jamais, je pense que si j'avais les images, déjà elles n'existent pas souvent, mais ça passerait pas, et je trouve qu'il y a un pouvoir de la voix à faire passer des émotions, et comme on est, bref, ça vibre avec certains auditeurs et pas tout le monde, hein. Tout le monde n'aime pas écouter ça, mais voilà, enfin, je trouve que c'est aussi le choix du format. Enfin, et du coup, effectivement, moi, Netflix, je trouve que c'est une façon de raconter qui est forcément extrêmement grand public et un peu calculée, quoi, à base de l'algorithme, etc. Ce qui rend certains faits assez... Enfin, pas à mon goût, en tout cas. Voilà, je n'ai pas envie de juger. Mais il y a aussi des trucs très bien, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, comme on est dans une émission sur le podcast, je pense que le podcast peut permettre de faire un pas de côté et de raconter autrement. Et d'écouter, surtout, les gens qu'on n'aurait pas écoutés pour plein de raisons, en télé, en Netflix ou quoi. Voilà.
Juste aussi, il y a des peines, il y a des douleurs que l'on doit entendre aussi, je crois. Parce qu'elle permet, comme un bain révélateur aussi, de comprendre un tout petit peu plus les faits. C'est-à-dire qu'entendre, vous preniez l'exemple de parents, entendre cette peine, entendre cette douleur, la voir ou la voir, voilà, je pense que ça permet aussi de voir en fait ces affaires sous un autre prisme, plus intime évidemment, mais qui du coup peuvent donner un peu plus de clés.
Oui, moi je me posais la question de à quel moment vous avez choisi de la forme de vos narrations, parce que quand on mène l'enquête, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas si ce qui va être le plus intéressant, c'est la personne qu'on va interroger, ou l'avant, l'après, ou ce qu'on va raconter, donner du contexte, est-ce que vous allez mettre une voix off ou pas, ce genre de choses, et à quel moment vous décidez, ok, bah, nous on va mettre en scène les coulisses de notre enquête, ou on va mettre en scène ce moment d'attente de la personne qui voulait pas me parler, puis finalement qui s'est décidée. Voilà, je m'interrogeais là-dessus, parce que vous avez des formes très différentes de raconter des enquêtes.
On a des petits automatismes quand même, c'est-à-dire que quand on y pense et quand on a le temps, moi par exemple, j'enregistre toujours un peu avant. Je dis ça en vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais genre, j'essaye de me faire un petit micro en live avant d'arriver à l'endroit, au cas où, à un moment, ce sera plutôt du live. Et après, la prise de son, moi, j'ai toujours la même méthode. Après, je crois que, par exemple, pour un micro au tribunal, c'est très différent parce que ce n'est pas du tout les mêmes. Mais après, voilà, moi, quand j'interview quelqu'un, je suis toujours à peu près à la même distance. Enfin, du coup, mine de rien. Et puis à la fin, pareil, c'est pas du tout automatique, mais à une époque, je m'étais dit, il faudrait à chaque fois que j'enregistre aussi quand on dit au revoir, etc. Parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on va en faire derrière. Et moi, je crois beaucoup aux différents niveaux sonores. C'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois, mais à nouveau, je trouve que quand on se donne la possibilité de le faire, en tout cas. Voilà. Donc à savoir, c'est vraiment très technique, mais moi, quand j'enregistre le son autour de moi, c'est pas avec mon micro d'interview, c'est avec le micro de mon enregistreur qui est un peu plus large, enfin... Et voilà, et je me dis toujours que ça va me permettre de donner du relief.
Et après, sur l'écriture et sur la structure, etc., on réécrit, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un moment, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, où pouf, je me dis, OK, la structure, elle est là, on va faire comme ci, comme ça, comme ça. En fait, faut forcément, à un moment, poser une structure, mais elle est rarement la structure qui va être celle qui va être gardée à la fin, qui va être définitive. Il en faut une pour se lancer, pour avoir un cadre dans lequel on va commencer. Et puis ça bouge, quoi. Nous, ça fait effectivement du coup longtemps qu'on bosse sur le podcast, mais on a fait un premier un chemin de fer en se disant on s'engouffre là-dedans et on l'a réécrit plein de fois en se disant mais attention, c'est plutôt comme ça. Puis il y a des fois où même on est revenu en arrière en se disant non, c'était mieux le truc qu'on avait fait au début. On est passé par des trucs même complètement en termes de forme. Complètement timbré, pour revenir en arrière. Donc, il faut toujours un peu se lancer une première fois avec une structure qui sera probablement pas celle qui sera la structure définitive. Et puis, c'est aussi au moment de le faire, au moment d'enregistrer, où ça vient, en fait. Enfin, il faut se lancer, quoi. Et puis, ça se trouve.
Nous, c'est forcément différent dans la fiction. C'est-à-dire qu'on a une première étape où il y a un document. Un premier document, alors plus ou moins traitement, Bible, enfin on appelle ça un peu comme on veut, mais un premier document qui étaye un tout petit peu la vision que moi j'avais d'Ousekine. Et donc dès ce document, effectivement, il y avait les trois strates. Quand je dis les trois strates, c'est les trois lignes narratives en fait qu'on retrouve dans les quatre films. Donc voilà, ça je l'avais dès le départ. Et puis après, quand on est rentré en room d'écriture, avec les quatre autres co-auteurs, on est parti sur cette base. Donc pour le coup, la structure, elle était là, je crois, dès le départ. Enfin, elle était là dès le départ. Et puis, on, de manière un peu alambiquée, on s'est arrangé pour justement, par des truchements narratifs, faire en sorte que ça se réponde, en fait, que ces trois strates se répondent.
Bonsoir. Voilà, c'est bizarre de vous entendre aussi fort. Merci à vous toutes et tous. Déjà, moi, j'ai passé un super moment. J'avais une question plus sur le témoignage, que ce soit dans le cadre d'une fiction, d'une enquête ou d'un podcast, et sur la confiance qu'on vous donne, en fait. Comment vous faites pour gagner la confiance d'une personne soit fragile, soit qui n'a rien à voir avec vous? Par exemple, ça m'a fait beaucoup rire, l'exilé fiscal. Comment on gagne la confiance d'un exilé fiscal? J'aimerais bien avoir des petites palettes, des nuances de comment vous faites pour gagner la confiance de certaines personnes qui n'ont soit rien à voir avec vous, soit qui vous sensibilisent beaucoup. Voilà. Et merci de rappeler que les JPN fait très bien son travail.
Pour gagner la confiance, alors avant d'en arriver à l'exilé fiscal, mais par exemple sur, comme je l'expliquais, quand c'était sur les réseaux de drogue, là c'est du temps passé avec les personnes. C'est aussi moi j'accepte de m'engager et je le fais, mais il se trouve qu'à la fin, souvent on me le demande pas finalement, mais je m'engage à faire réécouter le montage que j'ai fait. En tout cas, ça a été vraiment une proposition que j'ai faite aux jeunes que j'ai rencontrés qui travaillent dans les réseaux de drogue, parce qu'ils avaient été particulièrement malmenés s'ils avaient rencontré d'autres journalistes, ou en tout cas parce qu'ils ne faisaient absolument pas confiance aux journalistes. Encore plus les chefs de réseau, et ça c'est pour d'autres raisons. C'est juste pour éviter que les flics sachent. Donc ils voulaient vraiment vérifier que tout était suffisamment anonymisé. Et au final, la confiance était telle qu'ils ne m'ont jamais demandé en fait, d'écouter avant la diffusion. Après, pour les braqueurs, ça a été parfois, avec l'un d'entre eux, de multiples rendez-vous avant qu'il accepte. Je pense à Mickey, qui était un ancien des Pink Panthers, avant qu'il accepte finalement qu'on commence l'enregistrement. Et là encore, c'était aussi parce qu'il fallait se mettre d'accord, entre guillemets, ou pas d'accord, mais il fallait que lui soit dans sa tête, qu'il sache à peu près où aller, parce qu'il y avait des affaires sur lesquelles il n'était pas tombé. Voilà. Donc, c'était des précautions à prendre. Et ensuite, pour les exilés fiscaux, pardon, c'est encore un tout autre exercice, effectivement. Et là, souvent, j'ai joué sans mentir. Hein. Je n'ai pas menti pour les approcher. Je n'ai pas caché mon micro ni mes intentions de comprendre comment, pourquoi on voulait partir de France et pas payer ses impôts, tout en profitant quand même souvent du service public français. Là, à ce moment-là, je joue souvent un petit peu la naïve quand même, en disant, waouh, c'est comment l'optimisation fiscale, c'est compliqué, vous n'avez pas peur, mais montrez-moi quand même, c'est pas dur de vivre loin de la France, la Suisse c'est sympa, mais quand même on s'ennuie pas trop. Voilà, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Faut pas montrer des gros sabots. Maintenant que je travaille pour Mediapart, cette approche serait beaucoup plus compliquée quand même à mener.
C'est compliqué. C'est aussi pour ça que ça nous prend autant de temps. C'est qu'il y a des gens qu'on travaille depuis des années, quoi. Et c'est par plusieurs salves. C'est-à-dire que c'est pas parce que une personne vous a dit non une fois que potentiellement, un an plus tard, elle va vous dire non. En fait, parfois, il y a des gens que c'est un non catégorique dès le début. Mais tout va aussi passer par la façon dont on formule le truc. Donc moi, je peux mettre très très longtemps avant d'envoyer une demande d'interview, quoi. Parfois, j'envoie même, pas seulement par mail, mais par lettre, quoi. Voire lettre manuscrite, quoi. Voire même, là, pour une demande d'interview, par lettre manuscrite, avec en plus un livre. Parce que ça m'inspirait une histoire qui avait été écrite dans un livre, etc. C'est des pages et des pages pour expliquer pourquoi. Voilà. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais de toute façon ça prend beaucoup beaucoup de temps, quoi.
Il était des voix.
Et voilà, cet épisode 3 de la saison 3 d'Il était des voix, enquête en cours, touche à sa fin. Merci à nos invités Anne-Cécile Jean et Marine Pradel, autrices de A Very Hot Summer in New York, à paraître en 2023. Pascal Pascariello, journaliste à Mediapart et autrice, entre autres, des Braqueurs dont on a parlé, ou de Un micro au tribunal et de bien d'autres podcasts. Et puis Antoine Chevrolier, réalisateur et créateur de la série Oussekine, qui est disponible sur Disney+. Et puis des podcasts d'enquête ou de true crime, il y en a plein d'autres, puisque c'était le point de départ de cette discussion. Donc on va pas tous les citer, mais quand même, si vous êtes passé à côté de Cerno, l'anti-enquête de Julien Cerno-Bory, ça vaut le détour, quand la contre-enquête criminelle sert de prétexte en fait pour faire un portrait intime d'une génération, d'un quartier ou juste d'inconnus. Il y a aussi Arnaud Vacrin, la dernière tournée d'Alexandre Moniol sur la mort de l'ancien rugbyman. On a les Tontons Flingueurs sur Arte Radio, parce qu'Arte Radio aime beaucoup les histoires de braqueurs. Et puis pour finir, allez, L'Ombre sur Spotify sur l'affaire Estelle Mouzin. Nous, on se retrouve le 14 décembre prochain pour le dernier épisode de Il était des voix, enregistré en public à la Gaîté Lyrique autour de l'art de la fête, avec un enregistrement qui sera suivi d'une fête. Donc ratez pas ça. Allez, ciao.
Vous venez d'écouter Il était des voix,
un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel et Sonic le studio à la prod. Sonic.